Et pour ce jour de Pâques, nous allons donc entendre le récit de la résurrection dans l'évangile selon Jean. Et je vous propose de l'entendre en deux parties. La première partie maintenant avec une prédication et puis nous lirons la suite et il y aura à nouveau une prédication. Donc dans l'évangile selon Jean au chapitre 20, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au tombeau dès le matin, comme il fait encore obscur. Elle voit que la pierre est ôtée du tombeau. Elle court vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et elle leur dit : « Ils ont enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortent. Ils vont au tombeau. Ils courent tous deux ensemble. Mais l'autre disciple court plus vite que Pierre et arrive le premier au tombeau. S'étant baissé, il voit les bandes qui sont à terre. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive et entre dans le tombeau. Il voit les bandes qui sont à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non pas avec les bandes, mais pliées, dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entre aussi. Il voit et il croit. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait être relevé des morts. Et les disciples s'en retournent chez eux. Alors le thème du jour, c'était cette question en fait, Jésus est-il vraiment ressuscité? Alors c'est une bonne question pour Pâques, mais je vais en réalité la déplacer. Parce que pour les chrétiens, Jésus est ressuscité. Jésus est vivant parmi nous encore aujourd'hui. Donc, je ne vais pas vraiment répondre à cette question. En tout cas, si j'y réponds, c'est par l'affirmative, sans trop me poser de questions. Mais en réalité, la bonne question, c'est qu'est-ce que la résurrection? Parce que c'est cela que nous avons du mal à appréhender. Il y a eu tellement d'images de cette résurrection que peut-être nous avons du mal plus à nous interroger, à savoir ce qu'est la résurrection, plutôt que de savoir si Jésus est ressuscité. Pour les chrétiens, Jésus est vraiment ressuscité. Qu'est-ce que la résurrection est aussi? Qu'est-ce que la résurrection de Jésus fait dans ma vie? Quel impact la résurrection de Jésus peut-elle avoir dans ma vie? Parce que c'est cela qui est important. L'apôtre Paul lui-même, d'ailleurs, sait combien c'est important et combien il y a un lien entre la résurrection du Christ et notre propre résurrection. Comment, à travers la résurrection du Christ, nous pouvons appréhender notre mort et donc notre vie. Et c'est un peu ce que nous racontent, en fait, tous les récits de la résurrection du Christ dans les évangiles. Je ne sais pas vraiment ce qu'est la résurrection et on va essayer de voir ensemble. Il y a une chose dont je suis sûre, c'est que la résurrection n'est pas une restauration. Parce que quels que soient les évangiles, eh bien, d'abord, tout commence non pas par la vue du Christ ressuscité, mais par un tombeau vide, comme là. Le tombeau est vide, et c'est tout de même important. Quels que soient les évangiles, on commence par constater le vide. On commence par constater le manque. C'est à partir de ce vide et de ce manque, eh bien, que l'on va pouvoir avancer. La deuxième chose qui est assez étonnante, c'est que les récits nous montrent que l'on est en marche. Là, on est même en course dans ce récit-là. Vous avez vu, Marie va au tombeau au petit matin, et puis les disciples courent, ils continuent, et puis Marie, d'ailleurs après, va continuer à cheminer. Donc, la résurrection est déjà en lien avec ce manque, avec ce vide, et avec cette quête, cette marche. Ensuite, quels que soient les évangiles, eh bien, les premières apparitions du Christ ressuscité font qu'on ne le reconnaît pas. Ainsi, le Christ ressuscité n'est pas identifiable au crucifié, en tout cas pas à première vue. Il faut justement être en marche, il faut que les yeux s'ouvrent, il faut que quelque chose se passe, et ce quelque chose, c'est de l'ordre de la rencontre, c'est ce que nous allons essayer de voir. Donc la résurrection n'est pas une restauration d'un état antérieur. D'ailleurs, souvent on parle de la résurrection de Lazare dans l'évangile de Jean, lorsque Jésus le ramène à la vie, le relève d'entre les morts, mais en réalité, Lazare va mourir après, comme nous tous. Eh bien, en fait, la résurrection se situe encore ailleurs. La résurrection, eh bien, c'est ce qui se passe là au matin de Pâques, et on va essayer de voir ce qu'il en est. D'abord, vous savez, l'évangile de Jean est un évangile profondément symbolique. Ce qui est intéressant, c'est les premiers mots. Alors, la plupart des Bibles traduisent ainsi le premier jour de la semaine. Marie de Magdala se rend au tombeau dès le matin, comme il fait encore obscur. En réalité, on pourrait, mais ce n'est pas très joli, donc on ne traduit pas comme ça, on pourrait dire le 1 des sabbats, puisque en fait, semaine ou sabbat, c'est le même mot. Marie de Magdala ou Marie-Madeleine, c'est la même, hein, c'est une question de traduction, se rend au tombeau dès le matin, alors qu'il y a encore les ténèbres. Donc, je ne sais pas si vous faites attention au vocabulaire, il est assez important. Le jour 1. Le premier jour, c'est pas le premier jour, c'est le jour 1. Et puis ensuite, il est écrit matin et ténèbres. 1, ténèbres et matin, ces trois mots que l'on retrouve ensemble, ces trois mots qui inaugurent la Bible, le récit du premier jour de la création. Et Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, jour 1. 1, matin et ténèbres. Trois mots pour que notre récit de ce matin, ce récit de la résurrection, soit rattaché à un autre récit, celui de la création, le premier récit de création. Comme si, avec la résurrection du Christ, eh bien nous inaugurions une nouvelle création. Il s'agit d'autre chose, désormais. Et puis, après, on le verra, il y a un jardin, et un couple dans le jardin. Donc on voit bien le lien qu'il peut y avoir entre ce récit de la résurrection et le récit de la création. Mais une nouvelle création, et j'y reviendrai tout à l'heure. En réalité, l'évangéliste nous dit tout en douceur que la résurrection, c'est une création. Une création pour nous aussi. Vous savez, la création, c'est le passage du chaos, c'est-à-dire de ce mélange à la fois de ténèbres et de lumière, du chaos à un état qui va permettre à la vie d'advenir. Eh bien, il s'agit là de notre propre résurrection aussi. Lorsque nous sommes en quelque sorte dans le chaos, comme dans ce matin où il ne fait pas encore jour, où on est dans les ténèbres, eh bien, lorsque nous sommes dans le chaos, la venue du Christ fait que nous pouvons en sortir, être à nouveau relevés d'entre les morts. La résurrection, c'est quelque chose pour aujourd'hui déjà. Certes, la résurrection, c'est pour après. Mais là, on n'a pas grand-chose à en dire parce que, en réalité, personne n'est revenu pour nous dire ce qu'il en était. Mais est-ce que lorsque l'on fait l'expérience de la résurrection aujourd'hui dans nos vies, d'être relevés alors que nous sommes dans le chaos, eh bien oui, nous pouvons avoir cette confiance en Dieu et nous pouvons lui dire « Oui Seigneur, tu m'as relevé et quoi qu'il arrive, même si je meurs, je sais toute ta puissance et je sais que tu m'attends et que tu me tiens dans tes bras. » Alors ce qui est intéressant aussi là, dans ce récit, c'est que Marie fait un geste d'amour. Et peut-être que ça, c'est important aussi. Dans l'évangile de Jean, c'est même essentiel. Marie fait un geste d'amour, elle va le matin au tombeau. Elle y va, contrairement aux autres évangiles, où les femmes, dont elle fait partie aussi, vont au tombeau pour embaumer le corps de Jésus. Elle y va comme ça, gratuitement. Elle n'a rien à faire, puisque le corps a déjà été embaumé. l'avant-veille, avant d'être mis au tombeau par Joseph d'Arimathée et Nicodème. Elle y va gratuitement. Elle veut conduire son deuil jusqu'au bout, Marie, dans une quête obstinée de la dépouille de celui qu'elle aimait. Et là, elle va être déjà allée dans l'affliction, elle va être plongée encore plus dans l'affliction, puisqu'il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de corps, elle ne va pas pouvoir faire son deuil. Nous le savons, et l'actualité nous l'a rappelé, vous savez, entre cette catastrophe, cet avion qu'on a perdu, et ce bateau qui a coulé, et où tout le monde a coulé avec le bateau, lorsqu'il n'y a pas de corps, eh bien, on ne peut pas faire son deuil. Eh bien, Marie est dans l'affliction, parce que là, pas de corps, elle ne peut faire son deuil. Alors, elle va s'en remettre aux disciples. Et là, c'est assez intéressant, cette course-poursuite, il y a plein de choses, on pourrait évidemment parler des bandelettes, de tout cela. Mais ce qui est intéressant dans cette course-poursuite, c'est ce qui se passe. Pierre va rentrer, et finalement, la vue du tombeau vide ne lui inspire rien. En tout cas, rien ne nous est dit de ce que Pierre ressent à la vue du tombeau vide. Mais l'autre disciple, c'est pas n'importe lequel, c'est le disciple que Jésus aime. Alors ce disciple que Jésus aime, il n'est pas nommé, la tradition pense que c'est l'évangéliste Jean, mais gardons-le comme ça anonyme. Celui que Jésus aime, lui alors, il rentre dans le tombeau, il voit et il croit, nous dit-on. C'est quand même extraordinaire, il voit rien, le vide, le manque, et pourtant il croit. Ça nous renvoie juste un peu après, lorsque Jésus dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Jésus va encore plus loin. Lui, il voit et il croit. Mais la vue d'un tombeau vide ne saurait suffire. Dans l'évangile de Marc, elle suscite la peur, l'effroi chez les femmes lorsqu'elles découvrent le tombeau vide. Et d'ailleurs, Marie est probablement dans la peur aussi lorsqu'elle voit que la pierre est roulée, qu'il n'y a plus le corps de Jésus. Lui, il voit et il croit. Il a une foi exemplaire. Il est celui qu'on aime, donc cet amour fait que sa foi peut grandir. Sa foi est exemplaire, mais en réalité, pour l'instant, elle ne suscite aucun écho. Ici, le croire a en effet jailli, mais sans effet de changement sur l'autre. Il fait encore obscur, et il faut poursuivre l'itinéraire pour que la parole, la bonne nouvelle, puisse se répandre. Je vais donc continuer la lecture de cet évangile selon Jean. Cependant, Marie se tient dehors, près du tombeau. Elle pleure. Et comme elle pleure, elle se baisse pour regarder dans le tombeau. Elle voit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui disent « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Et elle leur répond « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, je ne sais où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourne, elle voit Jésus debout. Mais elle ne sait pas que c'est Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle, pensant que c'est le jardinier, lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourne et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore montée vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala va annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit toutes ces choses. Marie est donc là, elle est restée seule dans ce jardin, elle est atterrée, elle pleure. Elle est dans un jardin, comme je vous l'ai dit, jardin qui nous renvoie à la création primordiale. Mais pour l'heure, pour elle, c'est encore le chaos dans son cœur. À la vue du tombeau vide, Marie, elle, est encore enfermée. Il n'y a pas encore de foi. Il y a l'amour, parce que je crois que c'est important. Et je pense qu'il ne faut pas oublier cela. L'amour est le premier geste qui l'a mise en route. Et c'est ensuite l'amour aussi qui va susciter probablement sa curiosité. Elle pleure, elle est enfermée dans son chagrin, et pourtant, elle va essayer d'en savoir un peu plus. Elle va continuer sa quête. Elle se trompe de quête puisqu'elle cherche le corps mort de Jésus. Mais elle cherche, elle continue à chercher. Elle est prisonnière de son monde, de son système de valeurs. Pour elle, le crucifié est irrémédiablement mort. Elle est enfermée dans son chagrin et dans ses fleurs, mais sa fidélité est intacte. Aussi, elle se penche. Et en se penchant, elle voit les anges qui lui parlent. « Marie, pourquoi pleures-tu ? » Et elle dit sa peine, elle dépose son chagrin. Et ça, c'est essentiel aussi, ce dialogue qu'il y a, et le fait de pouvoir déposer sa peine et son chagrin devant un autre. Alors, Marie se relève, et déjà, on voit que le mouvement est positif. Elle se relève, et on nous dit qu'elle se retourne. Se retourner, c'est le verbe de la conversion. En fait, c'est devenu un verbe très marqué théologiquement, se convertir. Mais quand vous faites une conversion en ski, vous vous retournez, hein, vous changez de côté. Donc, c'est se retourner. Et lorsque Marie se retourne, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle laisse le tombeau là, derrière elle. Le tombeau, c'est-à-dire la mort. Elle laisse la mort derrière elle, symboliquement, et elle se tourne vers la vie. Et en se tournant vers la vie, elle voit Jésus. Mais peut-être qu'elle ne s'est pas assez retournée, je ne sais pas. En tout cas, ça nous dit aussi que pour comprendre ce qu'est la résurrection du Christ et notre propre résurrection, il faut du temps, il faut du dialogue, que ça ne vient pas forcément comme ça, qu'il faut probablement toute une vie pour continuer à chercher et chercher encore. Marie ne reconnaît donc pas Jésus dans le jardinier, mais elle est toujours attachée. Marie est même la figure de l'attachement à Jésus. Elle est là depuis longtemps. Dans l'évangile de Luc, on nous dit qu'elle l'a suivi et qu'elle fait partie de ses disciples qui ne sont pas nommés mais qui suivent Jésus. Il n'y avait pas que les 12, il y en avait de nombreux autres en réalité. Et dans l'évangile de Jean, elle fait même partie de ces femmes qui sont au pied de la croix avec le disciple bien-aimé, ceux qui sont restés fidèles jusqu'au bout. Et elle voit Jésus, mais elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas, mais elle parle, elle dit à nouveau quel est son problème, quelle est sa souffrance. Elle cherche toujours ce corps. Alors, Jésus va rompre en quelque sorte par un mot qui va lui permettre d'ouvrir les yeux. Il lui dit « Marie ». Il l'appelle par son nom, parce que il nous connaît, chacun et chacune, par notre nom. La relation avec le Christ ou la relation avec Dieu est toujours une relation en premier personnelle. C'est bien sûr une relation de la communauté puisque nous nous réunissons. Bon, ce matin, on était un peu plus nombreux, hein, mais c'est pas grave. On est entre nous là et c'est très bien. Donc, nous nous réunissons ensemble en communauté, mais c'est avant tout une histoire entre moi et Dieu. Et ça, personne ne peut en faire l'économie. Et Dieu nous appelle chacun et chacune, Marie. Et ce simple appel, le simple fait d'entendre son nom, on dirait que les choses à nouveau, eh bien, s'ouvrent pour elle et la foi apparaît. En réalité, c'est assez intéressant aussi, elle se retourne, nous dit-on, à nouveau. Alors une première fois, je vous ai dit, c'est très intéressant, symboliquement, elle laisse la mort derrière. Mais si elle se retourne à nouveau, elle est de nouveau face au tombeau. Alors, pourquoi ? Ça me pose un peu question. En fait, eh bien oui, il faut qu'elle regarde, peut-être, la mort en face pour comprendre que le Christ nous dit que la mort n'est pas la fin. Qu'en effet, on peut vaincre la mort. Il l'a vaincue, lui, par l'amour, par la foi, et que nous sommes invités aussi à vaincre la mort. Laisser les puissances de mort derrière nous, mais de temps en temps dans nos vies, il faut aussi savoir affronter tout cela avec lui. désormais, elle est vivante. Elle aussi, elle est relevée d'entre les morts. Elle n'est plus enfermée dans son chagrin. Et avec le Christ, eh bien, elle peut affronter tout ça. Le ressuscité, en l'appelant Marie, s'est révélé, mais il l'a révélé, elle aussi. Il l'a extirpée de son chagrin, de son chaos. Il lui a donné une direction, un sens. Ainsi, la reconnaissance du Seigneur pour Marie, eh bien, c'est un commencement, c'est une naissance pour elle. Alors oui, au matin de Pâques, elle est passée de l'obscurité à la clarté. Elle voit le ressuscité. Elle passe des larmes à la foi. Elle a suivi un itinéraire exemplaire d'acceptation, de retournement, de renoncement. Alors, on peut, nous aussi, faire comme Marie et tourner le dos au tombeau et essayer d'avancer avec lui, pas à pas. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce qui se passe par la suite, c'est que non seulement il s'est révélé à elle, mais il a fait beaucoup plus. Il lui a donné une mission. Parce que le disciple bien-aimé, il est rentré, il a vu, il a cru. C'est très très bien, c'est déjà pas mal. Hein. Mais bon, oui, je ne voudrais pas. Il a vu, il a cru, mais qu'a-t-il fait de se croire? On ne le sait pas. Alors si c'est vraiment l'évangéliste Jean, comme le raconte la tradition, il nous a raconté tout cela, et ce n'est pas rien. Mais elle, elle a une mission, c'est justement de ne pas se taire. Jésus lui dit deux choses, « Ne me retiens pas ». Pourquoi ne pas retenir Jésus? Eh bien, il ne faut pas le retenir parce que depuis déjà longtemps, il a préparé son départ. Son départ, non pas comme humilié sur la croix, mais dans la gloire, mais surtout son départ après, après qu'il ait traversé la mort, après qu'il nous ait transmis ce message, oui, la mort n'est pas la fin. Son départ auprès de Dieu, il est là, il est à la fois avec nous, il est auprès de Dieu. Il est avec son Dieu, mais son Dieu, c'est notre Dieu. Nous sommes donc là tous devant lui. Et puis lorsqu'il lui dit « ne me retiens pas », c'est parce qu'on ne peut pas enfermer le Christ. Il y a de cela aussi. On ne peut pas l'enfermer dans nos images, dans ce que nous voudrions qu'il soit. Il nous échappera toujours. Nous ne pouvons pas le retenir. Nous ne pouvons pas l'enfermer, pas plus que nous pouvons enfermer Dieu dans ses images. Il est toujours là où on ne l'attend pas. D'ailleurs là, il est comme un jardinier dans le jardin, et puis ensuite il va apparaître un peu partout à ses disciples. Et puis, dans nos vies, eh bien, nous voudrions qu'il soit là exactement où nous le voulons et puis qu'il obéisse un peu à ce que nous voudrions. Non, non, le Christ, c'est pas ça. Et Dieu, encore moins. Ils ne sont jamais là où on les attend. Ils sont au contraire dans l'inattendu de nos vies. Alors, c'est parfois magnifique et c'est parfois un peu dérangeant. Mais bon, il lui donne cette mission. Alors je vais revenir à ce un ténèbre matin, ce couple est dans un jardin, il l'envoie, c'est-à-dire envoyé en grec, ça veut dire, ça se traduit par apôtre, donc Marie-Madeleine est le premier apôtre envoyé par le Christ ressuscité, elle est dans ce jardin, nous sommes dans une création, mais là, dans ce jardin, elle n'en est pas expulsée, au contraire, elle est envoyée, envoyée par amour, envoyée par un autre et envoyée vers les autres. Parce que cela, c'est une vraie leçon de vie aussi. Essayer de ne pas rester enfermé sur nous-mêmes, mais nous ouvrir aux autres. Cette mission qu'il lui confie, eh bien, c'est une mission qui va lui permettre de retrouver toute sa vie, avoir quelque chose à faire de sa vie. Annoncer, annoncer la bonne nouvelle. Voilà sa destinée. Sa destinée n'est plus désormais de regarder à terre et de ne voir que les difficultés, de regarder son ventre et de rester centrée sur elle-même et sur ses douleurs. Non, elle est appelée à témoigner. Nous aussi, nous sommes appelés à cela. Évidemment, que lorsqu'on reçoit la bonne nouvelle, lorsqu'on fait cette expérience de la rencontre avec le Christ dans nos vies, il ne s'agit pas de rester enfermés sur nous-mêmes et de garder cela pour nous, mais au contraire, nous devons témoigner. On nous invite ainsi à nous mettre en marche comme Marie et à saluer la vie, à devenir ainsi, comme on pourrait dire, des porteurs d'espérance. C'est cela, à mon avis, être relevé d'entre les morts, être ressuscité. C'est cela le vrai message de la résurrection. C'est cela, croire en la résurrection et la vie. C'est savoir que l'on peut tourner le dos au tombeau, sortir du jardin et se tourner résolument vers les autres et vers la vie. La résurrection, cela nous dit qu'aucune menace de mort ne peut nous atteindre, parce que désormais nous sommes menacés de résurrection, menacés de foi, menacés d'espérance et menacés d'amour.